Le géopolitique, épisode 5, Corée, quand la frontière devient barrière. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Géopolitique, le seul podcast qui traite à la fois des questions d'actualité et des questions de géopolitique. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la péninsule coréenne, de la dictature du Nord et de la démocratie du Sud. Nous reparlerons de la guerre de Corée qui s'est déroulée durant la guerre froide. Et puis bien évidemment, nous parlerons des certaines améliorations qu'il y a eu, mais des tensions qui existent encore. Pour cela, nous nous appuierons sur de nombreux articles du journal Le Monde. Et puis, bien évidemment, nous gardons le sourire pour que cet épisode vous intéresse et en même temps vous fasse passer un agréable moment, que vous soyez dans votre voiture ou tranquillement chez vous. Trêve de blabla, on est tout de suite parti, je vous souhaite une agréable écoute. On va commencer cet épisode en vous présentant tout simplement des généralités sur les frontières, puisque notre podcast, notre épisode aujourd'hui, va être certes sur la péninsule coréenne, mais surtout sur cette frontière qui est dessinée tout au long du 38e parallèle. Vous le savez donc, au nord, nous avons la Corée du Nord, une dictature menée par Kim Jong-un, et au sud, une démocratie, la Corée du Sud, qui est une puissance régionale et qui gagne petit à petit en puissance au fur et à mesure des années, depuis les années 1970 exactement. Alors la frontière en général s'est définie comme une ligne qui est parfois poreuse avec des trous ou parfois non. Vous vous doutez bien que dans ce cas c'est le non qui l'emporte puisque la DMZ comme on l'appelle est la frontière la plus militarisée au monde. Cette frontière donc c'est une ligne mais pourtant dans le droit international la frontière n'est pas forcément une ligne. Cela peut être un point parfois comme dans un aéroport et bien évidemment la frontière c'est un acte de souveraineté et cela va nous intéresser dans cet épisode la souveraineté puisque nous, en Europe, par exemple, les frontières avec l'espace Schengen, on ne les connaît que très peu en France métropolitaine. Eh bien, parce que si on veut aller en Espagne, en Italie, on roule avec notre voiture et la frontière, on ne la voit pas, c'est une frontière tout à fait pacifiste. Ce n'est pas le cas en Corée et cette frontière est un réel acte de souveraineté, c'est-à-dire que cette frontière marque la fin du territoire administré par l'État, la fin des lois et des législations proposées soit par la Corée du Sud, dans un sens, ou la Corée du Nord, dans l'autre. C'est vraiment très important puisque elle délimite deux idéologies complètement différentes qui datent de la guerre froide. Avant, c'était la Corée du Nord soutenue par l'URSS, la Corée du Sud soutenue par les États-Unis. Cela a perduré et cette frontière est réellement de la politique marquée dans le temps. Les idéologies de la guerre froide sont encore représentées. Grâce à cette frontière, c'est un des seuls endroits au monde encore où l'on peut dire cela. On va parler de cette guerre froide, on va faire une rapide chronologie pour parler de cette frontière, mais nous allons pas nous y éterniser puisque le plus important, c'est de parler de notre monde contemporain des années 2000 à 2022. Et puis, pour cela, nous allons citer de nombreux exemples, de nombreux faits grâce aux articles du Monde. Voilà, souvenez-vous de ça, souveraineté et guerre froide, héritage des idéologies. On se retrouve pour continuer dans quelques secondes. Alors comme je vous l'ai rapidement esquissé, il est impossible de parler de la frontière de la péninsule coréenne au 38e parallèle sans parler de la guerre froide et de sa petite fille, la guerre de Corée. La première s'est déroulée de 1945 à 1991 environ et la guerre de Corée, elle, a commencé en 1950 pour terminer en 1953. 3 ans d'horribles combats qui se sont déroulés autour de cette frontière principalement. On va faire une rapide chronologie pour comprendre cette guerre et pour comprendre comment la frontière a évolué et comment, et on en est arrivé aujourd'hui encore à avoir des tensions autour de cette frontière sur la péninsule coréenne. Alors il faut savoir qu'en 1910, la péninsule coréenne, elle était sous domination japonaise. Sauf que en 1910, les Japonais décident de partir de cette péninsule coréenne et donc nous avons une indépendance qui peu à peu refait surface en Corée. Plusieurs années plus tard, en 1945, c'est l'URSS qui décide d'envahir la Corée. Et les États-Unis, en plein conflit avec la guerre froide, décident forcément de réagir. Ils ne peuvent pas laisser leur plus grand rival envahir un pays comme ceci. Donc les États-Unis débarquent au sud pour contrer l'URSS qui était arrivé par le nord. Et donc on va avoir là notre première fracture, puisque la péninsule coréenne va être séparée en deux, quasiment comme on le connaît aujourd'hui, au 38e parallèle. Les États-Unis, pourquoi ils font cela? Je leur ai dit parce que c'était leur plus grand rival. Si on rentre dans les détails, c'était dans leur stratégie de containment, c'est-à-dire le fait de contenir la propagation du communisme qui, de proche en proche, selon les Américains à l'époque, pouvait se répandre dans plusieurs pays. Et bien évidemment, les Américains, avec les idéologies capitalistes, ne souhaitaient absolument pas cela. Un an plus tard, nous avons une commission entre l'URSS et les États-Unis qui va commencer pour tenter d'unifier les deux Corées, les deux grandes superpuissances, se font passer pour deux gentils en essayant d'unifier les deux Corées. En réalité, ce n'était pas vraiment réalisable puisque cette conférence va s'étendre jusqu'au 15 août 1948 sans qu'elle n'aboutisse un point positif. 1948 donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons au nord l'URSS qui crée la République Populaire de Corée, un régime communiste, et au sud, les États-Unis créent l'indépendance de la République de Corée qui, au fur et à mesure, va glisser vers un régime d'extrême droite et une dictature. En 1950, deux ans plus tard, la Chine et l'ONU deviennent belligérants dans cette guerre autour du 38e parallèle et le nord envahit le sud, qui était, comme je l'ai dit, en train de devenir une dictature. Vous avez donc le régime communiste poussé par l'URSS qui, à ce moment-là, détient l'entièreté de la péninsule coréenne. 1953, fin de la guerre, le cessez-le-feu est signé. C'est la fin de la guerre, donc, mais ce n'est absolument pas la fin des tensions qui perdurent jusqu'à nos jours. Pour preuve, en 1990, la Corée du Nord est devenue plus qu'une dictature et en plus de cela, elle est isolée, elle ne survit que grâce à la Chine. La péninsule coréenne reste plus que jamais divisée. 2018, aujourd'hui, nous avons les premiers signes de rapprochement, comme par exemple avec la délégation commune qu'il y a eu au JO d'hiver. En 2018, c'est un point très important à souligner, c'était la première fois qu'on voyait un signe de rapprochement aussi énorme entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Nous allons pouvoir en reparler. Comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs acteurs durant cette guerre, les deux superpuissances, l'URSS, les États-Unis, le Japon, la Chine, l'ONU et les deux Corées. Et c'est important de savoir et d'essayer de comprendre comment cette guerre à l'époque était vue depuis l'Europe. Pour cela, vous aurez le lien en description. Nous pouvons lire un article, les nommés les États-Unis et la Corée, qui date du 16 août 1948, le lendemain de la fin de la conférence dont je vous ai parlé, qui est publié par le journal Le Monde. Il est donc titré « Les États-Unis et la Corée » et il vous explique ce qu'il se passe à ce moment-là en Corée. C'est très intéressant de le lire pour tout simplement comprendre quel était le point de vue occidental français à ce moment-là. Vous aurez le lien en description qui commence par lemonde.fr/archive et je vous laisserai le lire si cela vous intéresse. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue comme ça historiques et cela est disponible grâce aux archives du Monde. Alors cette guerre, qu'est-ce qu'elle a eu pour conséquence? Elle a pour conséquence le duel idéologique qui perdure depuis toujours. Le communisme au nord, le capitalisme et la démocratie libérale au sud. Cette guerre, comme je vous l'ai dit, c'est la parfaite illustration de la guerre froide. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Premièrement, le monde qui se divise en deux camps à l'époque et c'est représenté par les deux Corées. La frontière donc est avant tout idéologique et on en revient à notre point principal. Cette frontière, c'est une ligne militaire. Mais pourquoi les militariser? Pas pour une guerre aujourd'hui, car il n'y a pas de guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord officiellement. Par contre, il y a une guerre idéologique. Cette frontière la plus militarisée au monde est en réalité une frontière idéologique. Une dictature communiste au nord, une démocratie libérale au sud. C'est important de retenir cela parce que rien qu'avec ces quelques phrases, nous pouvons comprendre toute l'ambiguïté qu'il y a autour de cette DMZ. DMZ qui est la zone démilitarisée qui existe quelque part dans cette frontière et c'est le seul endroit où les armes sont posées. Un rapide passage autour de la Corée du Nord qui peut-être vous intéresser. Aujourd'hui, comment la Corée du Nord fait pour survivre? On appelle ça une stratégie d'extorsion puisque, comme vous le savez, la Corée du Nord reste très pauvre. Le but, c'est de paraître volontairement faible pour obtenir des aides économiques sans réalité des avancées politiques. En fait, on se montre très très faible, très très pauvre. Grâce à ça, il y a quand même des gentils qui vont nous donner un peu d'argent. On dit oui, on va s'améliorer si on nous donne de l'argent. On ne le fait jamais, on reste pauvre. Et le cercle vertueux ou vicieux, selon comment on se place, continue. C'est ce que fait la Chine, pour des raisons bien sûr plus complexes. Elle donne de l'argent continuellement à la Corée du Nord. La Corée du Nord est dépendante de la Chine, mais elle ne fait pas d'avancée économique parce que si elle était puissante, qu'elle avait beaucoup d'argent, eh bien certainement qu'on n'agirait pas de la même manière. Alors vous allez me dire oui, pourtant ils ont assez d'argent pour développer des armes nucléaires par exemple. Effectivement, c'est pour cela que le peuple est aussi pauvre. La force de la Corée du Nord, c'est donc sa faiblesse. Nous pouvons résumer cela avec cette phrase, important de s'en rappeler si ce sujet vous intéresse. Alors, j'étais parti, avant de m'égarer un petit peu, sur les échanges, parfois houleux, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud à cette frontière. Pour marquer ces tensions, il y a plusieurs points. Premièrement, il y a quelques années, il y a 2 ans exactement, des échanges de tirs entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'était Séoul qui avait dit cela. C'était exactement l'état-major des interarmées qui a expliqué avoir riposté par 2 séries de tirs et par un message de mise en garde. Heureusement, aucune victime n'avait été signalée du côté de la Corée du Sud. C'est pour rentrer plus en détail, vous pourrez lire un article du Monde que je vous mets en description de cet épisode. C'était le dimanche 3 mai 2020 et cela symbolise les tensions qui existent même si la guerre de Corée est terminée depuis longtemps, mais les idéologies continuent de perturber cette région. Autre sujet de tension que vous connaissez bien sûr, c'est la recherche constante des missiles nord-coréens. Et il y a peu, le 5 janvier 2022, la Corée du Nord a tiré un nouveau projectile non identifié et la Corée du Sud et le Japon l'ont fait remarquer à la communauté internationale. Il s'agissait certainement d'un missile balistique tiré dans la mer à l'est de la péninsule coréenne et il s'agissait du premier test de ce type effectué par Pyongyang en 2022. Il faut dire qu'ils n'ont pas trop tardé, 5 jours seulement. Là aussi, vous avez un article du Monde pour entrer plus dans les détails. Il est relativement intéressant et surtout, vous avez de la chance, celui-ci, il est gratuit, pas besoin de s'abonner au journal français. Alors ça, c'était pour illustrer les tensions, mais vous savez aussi qu'il y a quelques signes d'apaisement. C'est vrai que, quelque part, il n'y a jamais eu autant de signes d'apaisement qu'en ce moment, que depuis quelques années, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, même si cela n'est pas stable non plus, il y a des hauts et des bas. Mais le 4 octobre 2021, eh bien, il y a eu un signe fort entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Les deux pays ont rétabli leurs canaux de communication qui avaient été coupés unilatéralement en août par Pyongyang, soit la Corée du Nord. Ces canaux de communication, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tout simplement des flux de communication entre les deux pays. Ça ressemble, comme le dit Le Monde, à un dégel des relations intercoréennes, même si le contexte reste tendu. Là encore, un article en description, si cela vous intéresse. Il date d'août 2021, ce n'est pas si vieux, et puisque de toute manière la situation est tellement ambiguë, tant que les articles restent après 2017, ils peuvent être considérés d'actualité dans ce conflit idéologique. Voilà pour ce qui était des tensions et des apaisements qui arrivent parfois en Corée. Voilà aussi pour ce qui était de la frontière en général. On va maintenant parler de choses et d'exemples beaucoup plus concrets pour terminer cet épisode. Alors, puisqu'on a terminé notre analyse de cette frontière et que nous sommes arrivés à la conclusion que cette frontière était une frontière idéologique et pas tellement une frontière, une ligne purement militaire et qu'elle existait seulement à cause de l'héritage de la guerre froide, nous allons nous attarder un petit peu sur la pauvreté de la dictature du Corée du Nord. Je sais que cela vous intéresse, puisque ce pays est mystérieux, il intéresse beaucoup de monde. Nous avons d'ailleurs remarqué une augmentation touristique, oui, vous ne rêvez pas, en Corée du Nord juste avant la pandémie, puisque certaines personnes étaient autorisées à y rentrer. Bon, bien évidemment, je ne vous le conseille pas, mais effectivement, maintenant, il y a des séjours touristiques en Corée du Nord, et vous pouvez apprécier ce régime de l'intérieur. Je ne vous mettrai pas, bien évidemment, le lien de l'agence de voyage en description. Trêve de bavardage sur ce point-là et recommençons notre épisode du bon bout. Nous allons reparler d'un article du Monde, c'est le dernier promis, intitulé « En Corée du Nord, la modernisation promise par Kim Jong-un en panne ». Alors nous allons pas tellement nous intéresser au contenu de l'article, l'écriture du journaliste nommé Philippe Ponce, qui correspond à Tokyo. Je vais plutôt m'intéresser à l'image qui est sur cet article et qui et la première lorsque nous ouvrons la page internet. Sur cette image, nous pouvons y voir Kim Jong-un devant un chantier. Ce chantier, c'est l'hôpital général de Pyongyang. On a des images derrière de l'hôpital qui, normalement, lorsqu'il sera fini, est une œuvre architecturale juste magnifique, de grandes tours, des passerelles, enfin bref, un très bel hôpital. Et on voit Kim Jong-un donc donner des consignes à peut-être des architectes, à des officiers militaires sur cet hôpital, peut-être parce que le chantier n'avance pas assez vite, je n'en sais rien. Et nous remarquons très vite une chose, toutes ces personnes sont en train de prendre des notes sur le discours de Kim Jong-un, mais ils sont en train de prendre les notes avec chacun des petits calepins et chacun des petits stylos. Je fais une pause à ce moment-là, parce qu'on pourrait se dire oui, ils prennent des notes, très bien, mais si vous regardez les images aux États-Unis, en Europe, dans tous les pays un petit peu développés dans le monde, eh bien, il y a très peu de personnes qui, lorsque d'un discours d'un officiel comme ceci, prennent des notes. Bon, premièrement devant lui, c'est rare, mais s'ils sont amenés à prendre des notes, en général, ce sont soit des enregistrements audio, soit avec des appareils numériques, des ordinateurs, des tablettes, des stylés, des téléphones portables. Le nombre de personnes qui prennent des notes ainsi, avec un petit calepin, des petits stylos, des crayons à papier, dans des moments aussi importants, c'est rare. Et cette photo, même si elle peut paraître innocente, elle montre à quel point la Corée du Nord est en retard. Je vous propose aussi de regarder, si cela vous intéresse, c'est disponible gratuitement sur YouTube, une vidéo de l'effet papillon, émission diffusée sur Canal Plus il y a quelques années de cela, où vous avez un reportage de 16 minutes sur la Corée du Nord. Et quand je vous parlais de touristes, eh bien il y a des journalistes qui sont laissés infiltrer dans ces voyages touristiques pour voir à quoi cela ressemblait. Cela vous permettra de mieux voir comment la Corée du Nord marche de l'intérieur. Rien de surprenant, vous verrez. Voilà pour ce qui était de notre épisode. J'espère que cela vous a intéressé et j'espère surtout que vous aurez appris des choses. Je vous laisse la semaine prochaine avec un nouvel épisode spécial, un épisode historique, un bonus numéro 3. On se retrouve nous dans 15 jours avec un 6e épisode qui, je l'espère, vous plaira tout autant. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous parler. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Surtout, n'oubliez pas, libérez votre créativité et visitez frenchtemplates.fr. C'était Gauthier, à la prochaine.